Chapitre 2.
Quand Carl arriva, John Clock était déjà sur place à donner quelques consignes au reste de l'équipe. Il lui fit signe.
« Salut, Carl. Alors, j'ai fait le tour de la propriété, putain de baraque. Hein. Ça a bien dû me prendre une heure. Tout autour, il y a de hauts murs de pierre quasiment infranchissables, mais j'ai quand même posté des gars aux quatre coins, on ne sait jamais. Le point d'effraction le plus probable reste dans cette zone, à l'entrée de la maison. C'est là où on va se planquer. »
Carl observa les lieux, il y avait plus d'une trentaine de mètres à surveiller. La route par laquelle il était arrivé, seul point d'accès de ce côté-ci, continuait un peu plus loin, mais ne menait qu'à des résidences pavillonnaires semblant inhabitées. Parallèlement à la route, une petite côte montait vers le portail en fer forgé de la villa. De chaque côté s'étendait un grillage, bas, entièrement recouvert de buissons. Clock indiqua de loin à Carl la voiture où ils allaient s'enfermer jusqu'au petit matin. Garée de l'autre côté de la route, elle faisait face à la maison, mais en était assez loin pour ne pas attirer les soupçons. Il faisait encore grand jour et la chaleur était écrasante. Ils s'y installèrent tous les deux sans rien dire. D'ici, on avait effectivement une vue dégagée sur toute l'entrée, mais dès qu'il ferait nuit, ce serait autre chose. Cela faisait déjà 2 heures qu'ils suffoquaient à l'intérieur de la voiture. Ils avaient vaguement reparlé de l'affaire, mais Carl avait dû avouer qu'il n'avait rien trouvé sur une quelconque disparition de fruits exotiques ces dernières heures.
Cela avait fini d'emmurer Clock dans un mécontentement silencieux. Le soleil, lui, avait commencé sa course descendante, leur faisant espérer bientôt la fraîcheur de la nuit. Mais soudain, ils entendirent un bruit. Deux hommes, d'à peine 30 ans, s'approchaient doucement de l'entrée.
Clock fit signe à Carl de se taire. Pendant quelques instants, ils les observèrent en retenant leur souffle. Les deux intrus n'avaient pas vraiment l'allure à laquelle ils se seraient attendus. Pour des hommes de main, ils étaient plutôt propres sur eux. Pantalons à pinces, petites chemises décontractées et sacs en bandoulière. Pourtant, cela ne les empêchait pas d'entrer par effraction dans la villa. Clock sortit sans un bruit et s'approcha progressivement en restant à couvert. Il s'arrêta à quelques mètres d'eux, dissimulé par l'épais feuillage des arbustes. Les deux hommes semblaient en pleine dispute sur la manière d'opérer quand l'un d'eux se décida finalement à escalader le portail. C'était loin d'être la solution la plus facile. Clock les observait toujours. Il vit le deuxième homme ouvrir sa sacoche. Il en sortit ce qui avait l'air d'être une arme sur laquelle venaient taper les rayons du soleil. Sans hésitation, l'inspecteur bondit de sa cachette et, tout en leur criant de ne plus bouger, se jeta sur l'homme resté en bas. Clock ne mit pas longtemps avant de comprendre sa méprise. Les deux hommes, apeurés, étaient aussi affolés que deux petits garçons. La surprise avait fait tomber le premier du portail. Il demandait maintenant pitié, la tête enfouie entre ses mains. L'inspecteur se releva tout en tenant en joue l'homme sur lequel il s'était jeté. Celui-ci n'était armé que d'un appareil photo. « Putain de journaliste !» cria Clock. « Vous croyez qu'on a le temps pour ça? Vous pourriez tout faire foirer. Vous êtes sur un territoire surveillé par la police. Cassez-vous d'ici !»
Ni une ni deux, les deux reporters s'enfuirent en courant, mais dans leur cavale, l'un d'eux se retourna pour prendre l'inspecteur Furibard en photo. Clock retourna à la voiture, d'humeur plus massacrante que jamais. La nuit tomba enfin. Le silence se fit. Dans la voiture, on entendait seulement, depuis quelques minutes, un léger tapotement, désagréablement répétitif. L'inspecteur se tourna vers Carl. À la lumière des lampadaires, il vit que le son était provoqué par le genou de son jeune assistant se cognant de manière compulsive contre la boîte à gants. Clock lui-même reconnut qu'il avait d'abord mal jugé son nouveau coéquipier. Il n'était pas aussi benêt qu'il l'avait cru au départ et son affolement caricatural à vouloir bien faire avait apporté jusqu'ici de plutôt bons résultats. Il en était presque attachant, mais bon Dieu, ce qu'il pouvait aussi être énervant, il ne put s'empêcher d'aboyer. Hey, « Eh, tu veux bien arrêter avec ton genou, quelque chose te rend nerveux, gamin ?» Carl se figea et parut hésiter quelques instants. « En fait, j'aurais bien voulu vous poser une question, chef. » Clock sentit venir l'embrouille. Le problème avec les petits nouveaux, c'est qu'ils confondent souvent la promiscuité physique avec l'intimité. « Je me demandais si vous saviez y faire, vous, avec les filles ?» La question était lâchée et elle contenait à peu près tout ce que détestait Clock. L'inspecteur dut faire un effort surhumain pour se retenir, de lui voler dans les plumes et ne pas lui donner envie de retourner illico se cacher dans les jupes de sa mère. Carl était encore jeune. Dans quelques années, il serait sûrement un bon flic.
Il ne méritait sans doute pas que son supérieur se montre aussi dur envers lui. Mais voilà, Clock ne savait vraiment pas quoi répondre. Sur ces choses-là, il devait avouer que le temps ne lui avait pas appris grand-chose. Il se contenta de lâcher. Avec les filles, il n'y a rien à savoir. C'est toujours elles qui mènent la danse. Il était 23 heures. Les deux flics décidèrent de manger un bout. Carl, qui n'avait pas l'habitude des planques, avait ramené des pizzas. La chaleur s'était dissipée, mais la voiture embaumait maintenant le fromage fondu. La digestion était en marche et le jeune bleu commençait doucement à piquer du nez quand une sonnerie le fit sursauter. Il vit Clock décrocher son téléphone. « Allô, John, c'est Angela. Désolé de te déranger. » Depuis plusieurs heures, tout était calme. Clock se dit qu'il pouvait bien prendre cet appel quelques minutes. « Le bar est vide, je m'ennuie. Alors je me suis dit que j'allais t'appeler pour te donner un avant-goût de ce que je vais te faire ce soir. » L'inspecteur surpris se racla la gorge et sortit vite de la voiture pour ne pas que Carl entende leur conversation. « Oui, je n'ai que 5 minutes, mais je t'écoute. Je vais faire vite alors, ne m'interromps pas. » Clock s'éloigna un peu pour ne pas attirer l'attention et se mit à faire les 100 pas dans la nuit. « Je pensais tout d'abord t'attacher à une chaise. Quand tu arriveras tout à l'heure, tu monteras directement à l'étage et je t'attendrai habillé seulement d'une nuisette rouge. » L'inspecteur déglutit. « Je vais te menotter les mains dans le dos, ainsi tu seras à ma merci. Je déboutonnerai lentement ta chemise. » Clock sentit un mouvement dans son pantalon, mais il devait rester vigilant. « Je suis désolé, ma belle, tout cela me plaît bien, mais il faut que j'y retourne. » Elle ne semblait pas l'entendre. « Ensuite, je me pencherai vers toi et j'embrasserai ton cou, puis tout doucement, je descendrai jusqu'à ton torse et mordirai tes tétons. « Arrête, Angela, ou tu vas m'exciter pour de bon !» Mais la voix grave et séduisante continuait à susurrer de l'autre côté du fil, comme si de rien n'était. « Avec ma langue, je continuerai à descendre le long de ton corps jusqu'à arriver à... » Mais Clock n'entendit pas la fin de sa phrase. Brisant le silence qui régnait jusque-là, un grand bruit retentit soudain, c'était celui d'une vitre volant en éclats. « Merde, putain, Angela, faut que je te laisse !» Il raccrocha et se mit à courir jusqu'à la voiture où il vit Carl endormi. « Putain, Carl !» gueula-t-il. Le bleu se réveilla en sursaut et, au ton de son supérieur, saisit vite l'urgence de la situation. « Putain de merde !» répéta Clock tout en s'élançant sur la côte qui montait jusqu'à la maison, Carl à sa suite. Ils n'étaient pas arrivés en haut qu'ils virent une ombre sauter le grillage et les dépasser à toute vitesse pour s'enfuir par la route. Les deux flics partirent à sa poursuite. Carl était fin et rapide, il devançait l'inspecteur et se rapprochait toujours plus de sa proie. S'il voulait être pardonné de s'être endormi, il ne pouvait pas la laisser s'échapper. Au bout d'une 100 mètres, quand il vit que Carl l'avait presque rattrapé, Clock stoppa net et fit demi-tour. Tout aussi vite, il avala d'une traite la distance qui le séparait de la villa et sauta le grillage à son tour. Il cessa de courir et sortit son arme. Sans un bruit, il traversa le jardin et contourna la piscine où l'ananas avait été retrouvé 3 jours plus tôt. Il ne mit pas longtemps avant de comprendre d'où venait le bruit qu'il avait entendu. De la grande baie vitrée du salon, il ne restait plus rien. Pour l'instant, Clock ne parvenait pas à voir l'intérieur de la maison. Le regard bas, pour éviter les bouts de verre qui jonchaient le sol, il entra toujours sur ses gardes. Il dépassa le bar de la cuisine où Marina Saltzman pleurait dans ses bras hier encore, et c'est là qu'il la vit. L'inspecteur accusa le choc et ses jambes le lâchèrent soudain. Malgré son expérience, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une scène de crime aussi étrange. Il se rattrapa au comptoir et prit le temps de respirer une fraction de seconde en fermant les yeux. Quand il les rouvrit, rien n'avait changé. Il devait pourtant faire son travail et inspecter les lieux. Il se rapprocha. Tout était très silencieux. La seule lumière qui arrivait jusqu'au centre du salon était celle de la lune se réfléchissant sur l'eau de la piscine. Cela donnait une atmosphère particulière à la scène, en y ajoutant un sentiment d'angoisse. Clock était comme hypnotisé par les liquides qui s'entremêlaient et arrivaient doucement vers lui. Au premier plan, une grosse noix de coco, éventrée par le milieu, de laquelle s'échappait lentement un jus blanc et laiteux. Derrière elle, à moins d'un mètre, il y avait Marina Saltzman, étendue elle aussi sur le sol, une balle dans la tête. « Merde, merde, merde !» cracha tout bas l'inspecteur tandis qu'il regardait le sang de la jeune femme se vider peu à peu de son corps et se mêler au lait de coco. Il n'y avait plus rien à faire. Cela lui rappela un documentaire qu'il avait vu sur l'Afrique. Il voyait dans son esprit les images d'une rivière s'insinuant lentement et trouvant son chemin à travers les sillons d'une terre aride. Le sang était la rivière. Elle continuait à avancer vers lui en se séparant et en creusant son lit impitoyablement au travers du liquide immaculé. Il fallait qu'il se ressaisisse. Dans le lait de coco, à côté de lui, il aperçut quelques traces de pas. Il devait prévenir les renforts. Il sortit son talkie-walkie et appela les flics qui faisaient toujours le guet autour de la maison. En quelques minutes, le salon était rempli, les médecins légistes en chemin. Et enfin, on vit Karl revenir en tenant un homme menotté devant lui. Cloque vint dehors à sa rencontre pour lui éviter le spectacle. « Ce n'est pas nécessaire, pensa-t-il. » Ils attachèrent l'homme à un lampadaire et s'installèrent près de la piscine. L'inspecteur félicita le bleu de sa prise et lui raconta ce qu'il avait vu. Au moins, ils avaient un suspect, tout n'était pas perdu. Cloque prit quelques secondes pour l'observer. Il était blond et trapu, tout à fait le profil d'un homme de main, et il lui semblait bien reconnaître un des gars de Jimmy Carnico. Mais il ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Marina l'avait-elle surpris pendant qu'il s'occupait de la noix de coco ? Il n'avait pourtant aucune raison de la tuer, cela ne faisait pas partie du plan. Son téléphone se mit à sonner et il vit s'inscrire le nom qu'il redoutait.
« Commissaire Letterman ?»« Oui ?»« Pardon ?»« Pardon ?»« Oui ?»« Je comprends. »« Au revoir, commissaire. »
Il était dessaisi de l'affaire et il devait rentrer chez lui sur le champ. Il s'adressa à Karl. « Reste ici et tiens-moi au courant des avancées. » Cloque commença à marcher le long de l'allée pour regagner sa voiture quand il se retourna et cria
« Karl, dis-moi, tu as trouvé une arme sur le suspect ?»
Karl fit non de la tête. Cloque ne comprenait vraiment pas ce qui s'était passé.